On poursuit le parcours du premier livre des rois, et nous, on en est arrivé donc au chapitre 8. La construction du temple donc est terminée. C'est ce qui a été vu au chapitre 5, 6 et 7. Et donc, eh bien, maintenant, le temple il a été construit pour le Seigneur. Et on va voir pourquoi aussi pour nous, par rapport à nous. On a fait une sortie avec Brigitte, on est dans un club de gym pour les seniors, et on a fait des amitiés dans ce club. Donc on est parti une journée et on était dans le cadre tous ensemble, et donc le sujet est arrivé, mais est-ce qu'on a demandé le beau temps? À qui? Est-ce que vous avez demandé? Alors quelqu'un a dit, mais comment est-ce qu'elle a dit ça? Est-ce que tu as prié au prieuré? C'est quelqu'un qui a lancé ça dans le bus. Alors, ce n'est pas spécialement des gens. Ce sont des gens, voilà, de la ville, des environs. Et donc, c'est la responsable qui a demandé à une autre personne, est-ce que tu as trouvé un prieuré pour prier? Alors, est-ce qu'on a besoin d'un prieuré pour prier? En tout cas, c'est ce que beaucoup pensent pour être entendus, pour que leurs prières soient entendues. Elles ont besoin d'avoir un lieu. Et alors, voyons ce que la parole de Dieu en dit. Donc, le titre de mon message ce matin, c'est « Le temple ». Un lieu pour prier Dieu en sa présence. Le temple, un lieu pour prier Dieu là où il est. Donc, je vous propose je ferai la lecture en plusieurs fois. Hein. Ça sera au chapitre 8. Et pour le moment, je vais lire jusqu'au chapitre 13. 1 Roi, chapitre 8, du verset 1 au verset 13. Alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le septième mois pendant la fête. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoquée auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint, devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les deux tables de pierre, que Moïse y déposa en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, « L'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. » Donc jusqu'ici, la parole de Dieu pour le moment. La vérité que j'ai choisie pour mon message, donc qui va s'articuler sur tout le texte que nous allons lire, c'est que nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier dans la présence de Dieu. Nous avons besoin de prier dans la présence de Dieu, là où Dieu est. C'est ce que je vais voir en trois points. Le premier, nous verrons bien le temple. Pourquoi le temple? C'est la maison de Dieu pour sa gloire. Le temple, la maison de Dieu pour sa gloire. Deuxième point, je verrai le temple, un lieu pour prier et glorifier Dieu aux yeux des autres nations, à cause de son exaucement. Un lieu pour prier et glorifier Dieu aux yeux des autres nations, à cause de son exaucement. Et troisièmement, nous verrons que l'ancien temple, donc ce premier temple, qui est le temple de Salomon, l'ancien temple, il sera insuffisant et il y aura le besoin d'un nouveau temple. Donc premièrement, voyons le temple en tant que maison de Dieu, pour la gloire de Dieu. La maison est donc prête, la maison de Dieu, le temple est prêt. Dieu y vient, il est temps maintenant, Dieu y vient faire sa demeure, c'est pour lui qu'elle a été construite. Et avant le temple, il y avait quoi? Il y avait le tabernacle. Le tabernacle qui était mobile dans le désert, et il y avait l'arche. L'arche, de l'Alliance qui représentait la présence de Dieu dans le tabernacle. L'arche, donc, il va maintenant falloir la transporter de là où elle était, du tabernacle, avec le tabernacle et tous les ustensiles dans le nouveau temple. Cette tâche était confiée uniquement aux Lévites, aux prêtres Lévites, hein, donc pour le transporter jusqu'au temple à Jérusalem. Là, on offre de nombreux sacrifices, on ne pouvait pas les compter. Et puis l'arche, après avoir été mobile, maintenant, la voilà dans un lieu fixe, elle est déposée dans le lieu très saint. Vous vous rappelez, il y a le lieu saint où les prêtres faisaient les sacrifices, et un lieu très saint où seul le souverain sacrificateur avait le droit d'aller une fois par an, qui représentait là où est la présence de Dieu. Et donc c'est là que l'arche est déposée, sous les ailes des chérubins, vous vous rappelez, sous les ailes des deux chérubins. Et puis là, il y a un détail qui est là, et s'il est là, c'est que, aussi pour nous faire réfléchir, il y a deux barres, vous savez, des barres qui servaient à transporter l'arche. Elles vont être aussi déposées dans le lieu saint, le lieu très saint, et elles vont dépasser jusqu'au lieu saint. Pourquoi on les voit? Alors, on peut se poser la question, pourquoi? Pourquoi ces deux barres étaient déposées de telle manière qu'on puisse les voir? Je crois que c'était pour que le peuple se rappelle qu'il y a eu un temps où ils ont un long temps qu'ils ont passé dans le désert avec l'arche, où l'arche allait de lieu en lieu, où Dieu conduisait donc son peuple dans le désert. Je crois que c'était pour que le peuple se rappelle de sa traversée dans le désert. Et nous aussi, nous avons besoin parfois de nous rappeler là où, par rapport à aujourd'hui où nous en sommes, où est-ce que nous étions il y a encore quelques temps, où est-ce que nous étions l'année dernière, et il y a 5 ans, il y a 10 ans, et voir ce que le Seigneur a fait dans nos vies. On peut y voir aussi, vous savez, lorsque Jésus est ressuscité, il s'est montré avec les marques des clous dans ses mains à Thomas pour rappeler son sacrifice. Et Jésus est remonté au ciel avec ses stigmates, avec ses marques dans ses mains. C'est aussi pour se rappeler son sacrifice, ce qu'il a fait pour nous. Et ça, il y a un parallèle, je crois, entre ces barres qui dépassaient, qu'on pouvait voir du lieu saint, et ces marques de Jésus qui seront visibles pour l'éternité, pour se rappeler ce qu'il a fait, même une fois glorifié, et son œuvre à la croix. L'arche est donc déposée, et que se passe-t-il à ce moment-là? Verset 10, la nuée remplit la maison de l'Éternel. La nuée, il était question de la nuée lorsque Moïse parlait avec Dieu, et elle représentait, elle rappelle la gloire et la présence de Dieu dans le tabernacle, lorsque Moïse parlait avec Dieu. C'est voir Exode 33, verset 9, si vous voulez la référence. Et que se passe-t-il? Les sacrificateurs ne purent pas y rester longtemps, ne purent pas y rester pour accomplir leur service. Pourquoi? Parce que la nuée représente la gloire de Dieu qui remplissait tout le temple. La nuée, c'était la gloire de Dieu lui-même. Il n'y avait pas de lampe dans le temple, c'était la gloire de Dieu qui éclairait le temple. Et les sacrificateurs ne pouvaient pas rester à cause de la gloire qui remplissait ce temple. C'est pour ça que Salomon dit au verset 12, « L'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Seule sa lumière peut éclairer pleinement les ténèbres. » Et puis donc là, on est donc dans une sainte convocation. Hein, où le peuple a été convoqué là pour l'occasion, pour l'inauguration de ce temple. Et puis il y a le roi Salomon, le fils de David. Alors, dans les textes que nous allons lire, on va bien voir qu'il y a... Il y a plusieurs temps. Il y a un temps où Salomon va parler au peuple, il y a un temps où Salomon va parler à Dieu, dans sa prière que nous allons voir, et à nouveau Salomon va se remettre à parler au peuple. Et on va voir le déroulement de tout ça. Donc là, le roi Salomon se tourne vers le peuple, il ne prie pas encore, et il prend alors la parole. Je vous propose de continuer la lecture à partir du verset 14, donc de 1 roi 8, à partir du verset 14, je lirai jusqu'au verset 21. Donc gardez le doigt sur la page. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant. Depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résidait mon nom. Mais j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel. Et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai déposé un lieu pour l'arche où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec nos pères quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Donc jusqu'ici, pour le moment, la parole de Dieu. Salomon, donc, il est devant le peuple. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va bénir le peuple d'Israël qui est devant lui. Il va le bénir et il bénit Dieu. Il bénit Dieu devant le peuple. Et c'est ainsi qu'il bénit le peuple. Il bénit Dieu devant le peuple, bénissant ainsi le peuple d'Israël. Et comment Salomon bénit-il Dieu? Il bénit Dieu pour sa fidélité, pour ses promesses qu'il a tenues jusqu'ici et qu'il tiendra encore pour celles qui ne se sont pas encore accomplies. Salomon, il rappelle le passé, il rappelle la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est là où Dieu a fait alliance avec son peuple. Il a voulu se faire un peuple qui lui appartienne. Verset 21, donc, la sortie d'Égypte marque l'alliance de Dieu avec Israël. Cette alliance, elle était représentée par l'arche. On appelle l'arche, c'est l'arche de l'alliance. Puis, Salomon va rappeler une autre alliance, l'alliance que Dieu a passée avec David. Verset 16, je le relis. Depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résida mon nom. Mais j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. Et là, c'est important, parce que déjà, ce passage nous parle du lieu, le lieu où habite Dieu. Plus qu'un lieu, il s'agit d'un nom. Il s'agit de David et de sa descendance. Donc, le lieu, il n'est pas primordial, même s'il est important. Dieu avait promis à David que ce serait son fils, Salomon, qui lui construirait un temple. Et là, Salomon est en train de rappeler au peuple que Dieu a tenu sa promesse. Dieu a tenu sa promesse. Et cette promesse, elle avait déjà été faite au moment de l'Exode, juste après la sortie d'Égypte, dans le cantique de Moïse. Je vous lis juste le verset 17 du chapitre 15 de Exode, où on retrouve cette promesse qui avait déjà faite bien auparavant. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Dieu tient toujours ses promesses. Et la construction achevée du temple en est déjà une marque, un signe, enfin une confirmation. Même si ça prend du temps, Dieu tient toujours ses promesses. On se rappelle que la construction du temple avait commencé 480 ans après la sortie d'Égypte. Ça peut prendre du temps, mais n'en doutons pas, Dieu tient ses promesses. Donc, Salomon s'est adressé au peuple. Maintenant vient le moment de sa prière, la prière de Salomon. Salomon va s'adresser à Dieu qu'il prie dans le temple. Donc, mon deuxième point, le temple, un lieu pour prier et glorifier Dieu aux yeux des autres nations, à cause de son exaucement. On va voir ça. Donc je vous propose de continuer à partir du verset 22. Et là, c'est un long passage. Je vais lire jusqu'au verset 53. Donc la suite, 1 roi 8, à partir du verset 22. Salomon va donc prier. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit « Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. » Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant « Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi ? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pèche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher. Et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'ils adressent à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pèche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés, et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux. Car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte, du milieu d'une fournaise de fer. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël, pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont. Car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage, comme tu l'as déclaré par Moïse, ton serviteur, quand tu fis sortir d'Égypte nos pères, Seigneur éternel. Amen. Voilà donc la prière de Salomon. Dans une prière, on demande à Dieu, mais là, avant de demander à Dieu, Salomon ne commence pas par demander à Dieu, il commence par louer Dieu. Pourquoi ? Encore parce qu'il est fidèle, parce qu'il a accompli ses promesses. Parce que Dieu a gardé et gardera, parce que Dieu garde son alliance, une alliance qui est une alliance de grâce et de miséricorde. Alliance qu'il a faite avec ceux qui gardent eux-mêmes cette alliance de tout leur cœur, qui marchent avec Dieu. Comme ça a été le cas avec David, qui aimait Dieu, même s'il n'était pas parfait. Je relis le verset 23. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Une alliance est réciproque. Dieu s'est engagé. Et il attend aussi notre cœur pour marcher avec lui. Puis, versets 24 à 26, Salomon, cette fois, il demande à Dieu de tenir une autre promesse qu'il a faite à David. Cette promesse, c'est celle que David ne manquera jamais d'un successeur, si ce successeur marche avec Dieu. Et là, Salomon demande à Dieu d'accomplir cette promesse. Dieu soit loué pour sa promesse tenue envers David. Dieu a tenu sa promesse, le temple, en est la confirmation. Eh bien, soyons sûrs, il tiendra aussi sa promesse pour les descendants de David. Comme quoi, le passé garantit l'avenir. On vient tous de quelque part. Le peuple d'Israël a une histoire. Cette histoire, elle est consignée dans la parole de Dieu. C'est pour nous. C'est pour nous. Et c'est le passé garantit l'avenir. C'est un puissant encouragement pour nous, peuple de Dieu, aujourd'hui. Alors, on peut se poser la question, pourquoi le temple ? Salomon avait bien compris que Dieu est au ciel. Et Dieu n'avait pas besoin d'une maison pour vivre au milieu d'Israël. Et d'ailleurs, Salomon reconnaît qu'aucun temple, aussi grand soit-il, ne peut le contenir, ne peut contenir Dieu, verset 27. Alors pourquoi ? Pour qui le temple ? Eh bien, pour Israël. Israël avait besoin d'un lieu pour prier, où il devait se rappeler que Dieu est présent, un lieu où Dieu est présent. Voilà pourquoi le temple. Je ne sais pas où en est votre vie de prière, frères et sœurs. Est-ce que vous avez un lieu où vous avez l'habitude de venir prier ? Ça peut être dans votre maison, peut-être à l'extérieur, peut-être dans votre voiture, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez vu le film War Room. En tout cas, c'est un film qui encourage à prier. War Room, ça veut dire la chambre de la guerre, la chambre où se mène le combat. C'est la chambre où une personne était habituée à venir pour prier quotidiennement. Est-ce que vous avez un lieu, votre lieu, à vous, où vous avez l'habitude de vous retrouver pour passer du temps avec le Seigneur, pour lui parler ? Un lieu qui est consacré à ce temps-là. Là, il est clair que le temple était pour inciter le peuple à venir prier dans ce temple, parce que c'était là où était, où le peuple devait se rappeler que Dieu est présent aussi dans le temple. Et c'est, en venant prier, le peuple devait se rappeler que Dieu est présent dans ce lieu. Salomon demande à Dieu de reconnaître le temple et d'écouter, d'exaucer et de pardonner à tous ceux qui viendraient prier dans ce temple, y compris lui-même, versets 27 à 30. J'ai regardé dans cette prière plus en détail et le cœur de cette prière se résume en deux mots qui reviennent souvent, exauce et pardonne. Et on trouve ces mots au verset 30, 34, 36, 39, 43, 45, 49, 50, 52. Pourquoi ? Parce que notre premier besoin, pas seulement le besoin d'Israël, mais notre premier besoin à tous est d'être pardonné, que Dieu pardonne nos péchés. Et Salomon l'avait bien compris, il le dit au verset 46, « Car il n'y a point d'homme qui ne pêche. » Ce que Paul confirme, redira, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Romains 3, 23. Dans le verset 47, Salomon utilise trois termes qui évoquent tous les trois le péché, trois termes différents. Nous avons péché, je vous l'ai redit, nous avons péché. Ici, le mot évoque l'idée de manquer le but, de rater la cible. Quand on pêche, on passe à côté du plan de Dieu pour sa vie. Ça, c'est le premier sens de péché. Nous avons péché, dans le sens de manquer le but. Deuxième, nous avons commis des iniquités. Là, le mot évoque l'idée de péché délibérément, consciemment. Et troisième, nous avons fait le mal. Nous avons fait le mal, c'est l'idée de sortir du cadre, de sortir de la vérité, de ne pas se conformer à la vérité. Et là, on peut prendre une image, vous savez, dans un, ce que vous aimez ou pas le foot, il y a des règles dans le foot, et il y a un terrain avec des délimitations bien précises, il y a des lignes qui sont sur le terrain de foot, à ne pas dépasser. Eh bien, ce troisième terme, nous avons fait le mal, c'est l'idée vraiment de sortir du cadre que Dieu a fixé, comme si un joueur faisait abstraction des règles du jeu, il sortait des marques du terrain. Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. Péché, donc, beaucoup de termes pour définir le péché. Et au verset 50, ça résume tout, le mot transgression. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu, c'est désobéir à Dieu. Ce que nous avons tous fait. Et puis le péché a des conséquences, ce qu'on voit très bien dans la prière de Salomon. Parmi ces conséquences, eh bien, on peut citer, qu'on retrouve pour reprendre sa prière, il y a la défaite face aux ennemis. Le péché entraîne la défaite face aux ennemis, verset 33. La sécheresse. La sécheresse est aussi une conséquence du péché, verset 35. La famine, les épidémies, les maladies, les mauvaises récoltes, verset 37. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que c'est pas ce que notre monde traverse en ce moment ? Un monde qui s'est bien éloigné de Dieu ? Donc ne soyons pas étonnés. La Bible explique pourquoi ces choses. Salomon est bien conscient du péché dans le cœur de tout homme, verset 39 et verset 46. Et sa prière, eh bien, il demande à Dieu. À cause de son alliance, qui est une alliance d'amour, une alliance de miséricorde, il demande à Dieu de pardonner à quiconque viendra le prier dans le temple ou en direction du temple, parce que le temple pouvait être loin pour certains, ou en direction du temple. Toute personne qui viendra prier et qui se repent de ses péchés. Se repentir. Plusieurs termes sont aussi dans ce passage pour expliquer ce que c'est que la repentance. Se repentir, c'est déjà reconnaître et avouer ses fautes. Mais c'est pas que ça. C'est aussi vouloir les abandonner. Vouloir abandonner ses péchés. Proverbe 28, verset 13, nous le dit très clairement. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est pas le tout de les avouer, de les reconnaître. C'est aussi vouloir s'en détourner. Plusieurs expressions pour exprimer la repentance dans la prière de Salomon. Il parle de, verset 33, revenir à Dieu. Verset 35, il parle de se détourner de ses péchés. Verset 38, il parle de reconnaître la plaie de son cœur. Verset 47, il parle de rentrer en soi-même. Et verset 48, il parle de revenir à Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Donc la repentance est vraiment un demi-tour. On tourne le dos au péché, mais on ne se tourne pas face à n'importe qui. On tourne le dos au péché pour se tourner vers Dieu et pour le suivre. Il n'y a pas de troisième voie. Donc, premier sujet qui revient, Salomon demande l'exaucement des demandes de pardon, aussi bien individuelles que de plusieurs personnes, des personnes qui viendraient prier dans ce temple. Mais Salomon ne fait pas que demander à Dieu de pardonner. Il demande aussi que Dieu fasse droit et justice. Verset 31. Il demande aussi la victoire sur les ennemis quand Israël serait en guerre, pas à cause de son péché cette fois, au verset 44. Salomon donc demande surtout à Dieu qu'il pardonne à Israël leurs péchés. Pourquoi ? En raison de l'alliance que Dieu avait faite avec Israël. Quand est-ce qu'il a fait cette alliance ? Je le rappelle, à la sortie d'Égypte. Pourquoi Dieu a-t-il libéré les Hébreux des Égyptiens ? Pour en faire un peuple à part, séparé des autres peuples, verset 53, pour en faire son peuple. Alors pourquoi Salomon demande-t-il à Dieu de pardonner au peuple d'Israël ? Bien sûr, c'est pour le peuple, mais pas seulement. Et dans cette prière, ça revient très souvent. Cette raison Eh bien, peut-être vous vous êtes posé des questions sur l'élection. Pourquoi Dieu en choisit certains et pas d'autres? Cette raison, c'est aussi l'explication. La raison, ça explique aussi l'élection. Dieu s'est choisi un peuple, il a choisi un peuple. Voici cette raison. Dieu n'a pas choisi Israël parce qu'il est meilleur que les autres. C'est le moindre des autres peuples. Mais Dieu a choisi Israël pour que les autres peuples connaissent Dieu à travers Israël. Comment ? Par le pardon dont aura été l'objet Israël. Les autres peuples, voyant que Dieu pardonne à son peuple, ils vont avoir envie de se tourner vers le Seigneur. Voilà la raison de l'élection. Pour que les autres peuples le connaissent de par le pardon et la miséricorde qu'il accorde à son peuple. Parce que c'est une alliance de miséricorde. Et pour que les autres peuples, à leur tour, se tournent vers Dieu. D'ailleurs, dans sa prière, Salomon demande à Dieu d'exaucer la prière de l'étranger. La prière de l'étranger qui fera le voyage pour venir prier dans le temple, parce qu'il aura entendu parler du nom de l'Éternel. C'est un Dieu qui pardonne. Verset 43. Salomon demande à Dieu d'exaucer la prière. Pourquoi ? Verset 43. Pour que tous les peuples de la terre connaissent son nom. Dieu est bon. Vous avez été l'objet de sa bonté. Moi aussi. Mais rappelons-nous que la bonté de Dieu à notre égard ne vise jamais notre épanouissement personnel. La bonté de Dieu à notre égard, son pardon, vise à lui rendre gloire, lui, et à ce qu'il soit connu des autres qui ne le connaissent pas. Voilà pourquoi Dieu est bon, pourquoi nous avons été l'objet de la bonté de Dieu. Aussi pour le faire connaître aux autres. Le verset 60 que je vais lire le redit. Je le cite, « Afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. » Recontinuons notre lecture, à partir du verset 54 jusqu'au verset 66. Donc Salomon a fini de prier, il va s'adresser de nouveau au peuple. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pères. » Qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrites à nos pères. Que ces paroles, objet de mes supplications devant l'Éternel, soient jour et nuit présentes à l'Éternel notre Dieu et qu'il fasse en tout temps droit à son serviteur et à son peuple d'Israël. Verset 60. Afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Verset 62, le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. En ce jour, le roi consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes, les offrandes et les graisses de sacrifices d'action de grâce. Parce que l'autel d'airain qui est devant l'Éternel était trop petit pour contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce. Salomon célébra la fête en ce temps-là et tout Israël avec lui. Une grande multitude venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte s'assembla devant l'Éternel, notre Dieu, pendant 7 jours et 7 autres jours, soit 14 jours. Le 8e jour, il renvoya le peuple et ils bénirent le roi et s'en allèrent dans leur tente, joyeux et le cœur content pour tout le bien que l'Éternel avait fait à David, son serviteur, et à Israël, son peuple. Amen. Donc jusqu'ici, pour le moment, c'est pas encore fini. La parole de Dieu. Donc Salomon, il a fini sa prière et maintenant il s'adresse de nouveau au peuple. Qu'il bénit de nouveau. Il bénit l'assemblée. Comment ? En bénissant Dieu. Devant le peuple. Dieu qui a tenu sa promesse. et qui a accompli toute sa parole. Il le redit cette fois devant le peuple. Toute sa parole, il a accompli toute sa parole donnée à Moïse. Et là, imaginez le peuple qui est présent, il entend le roi Salomon. Que demande Salomon? Il demande devant le peuple que Dieu soit toujours avec son peuple. Tout le monde doit l'entendre, tout le monde doit savoir. Il demande que Dieu incline le cœur du peuple et le sien pour le faire marcher dans sa volonté, versets 57-58. Salomon, c'est un roi humble. Le texte nous dit qu'il se releva. Donc il était à genoux quand il a prié. Il se releva. Il a montré son humilité. Il s'était agenouillé devant le peuple, pour le peuple. Il a prié pour le peuple. Salomon, il montrait au peuple que Dieu est fidèle. Il garde son alliance, qui est une alliance de miséricorde. Une alliance qui est inséparable de son amour. Et par là, eh bien, Dieu est digne d'une loyauté et d'une obéissance absolue. De la part d'Israël et aussi de notre part. Aussi, pour que les autres peuples le connaissent, verset 60-61. Il faut donc agir avec lui selon cette alliance, qui est une alliance de miséricorde. C'est-à-dire, en lui étant fidèle, sans partage. Parce que lui désobéir irait à l'encontre de cette alliance. Fin de la dédicace, et là c'est une grande fête. La dédicace du temple se termine par une fête de 7 jours. Ça a eu lieu pendant la grande fête des tabernacles. Et donc le roi et tout Israël offrent de nouveau une multitude de sacrifices. Et vous avez remarqué là, c'était des sacrifices de reconnaissance, des sacrifices d'action de grâce. Ce n'était pas des sacrifices de culpabilité, ni des sacrifices d'expiation. Cette cérémonie donc se termine dans une grande joie dans le cœur de chacun. Le roi a béni le peuple aussi bénit le roi. Et chacun rentre chez lui content. Et la fête est prolongée de 7 autres jours. Alors Dieu va-t-il répondre à la prière de Salomon? Voilà, on attend maintenant sa réponse. Est-ce qu'il va reconnaître le temple comme le lieu où venir pour venir prier? Avant de poursuivre, je vous propose de prendre un chant. Et on va prendre le 522. Et on va se lever. Le 522, comme une biche soupire après du courant d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Donc Dieu va-t-il répondre à la prière de Salomon? On va poursuivre notre lecture par ce dernier passage, le début du chapitre 9, les 9 premiers versets. Donc 1 Roi 9, versets 1 à 9. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qui lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je peux commander, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David et ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais, si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placée qu'a été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Dieu donc apparaît à Salomon, et c'est pour la deuxième fois qu'il apparaît à Salomon. La première fois, ça le concernait lui lorsqu'il avait demandé la sagesse à Dieu, et Dieu la lui a accordée. La deuxième fois, ici, donc, eh bien, ce que dit Dieu à Salomon le concerne lui, mais pas seulement lui, ça concerne aussi les descendants de Salomon et tout le peuple. Dieu lui dit qu'il exauce la prière, qu'il sanctifie le temple pour y habiter. J'aime beaucoup cette expression, pour y avoir toujours ses yeux et son cœur. Dieu montre son cœur. Verset 1. Il acceptera d'habiter dans cette maison, ce qui devrait encourager tout son peuple à venir le prier dans ou vers ce lieu où il est présent, le temple. Il rappelle à Salomon que s'il marche avec lui, David ne manquera jamais d'un successeur. Et que là, il rappelle à Salomon que la présence de Dieu exige de lui et du peuple une stricte séparation d'avec le mal. Mais si le peuple se détourne, Dieu se détournera aussi de cette maison. Il la rejettera. Et Israël sera retranché et envoyé en exil. Israël deviendra un sujet de moquerie, de sarcasme aux yeux des autres peuples. Au lieu que les autres peuples lui rendent gloire à Dieu, ils se moqueront du peuple de Dieu. Ça sera tout l'inverse. Quiconque passera devant ce qui restera du temple, et aujourd'hui il ne reste pas grand-chose, hein, il reste juste le mur des lamentations du second temple. Quiconque demandera, qui passera devant ce qui reste du temple, se demandera, étonné, pourquoi Dieu a-t-il traité ainsi son peuple? Réponse, parce qu'ils l'ont abandonné. Et effectivement, Salomon, dans sa prière, il avait prophétisé ce qui s'est passé. Il avait prophétisé quoi? Il avait prophétisé l'exil à Babylone, à cause de la désobéissance d'Israël. Et il avait aussi prophétisé le retour d'Israël sous le règne de Cyrus. Donc Salomon avait déjà prophétisé qu'Israël partirait en exil dans sa prière, versets 46 à 51. Donc clairement, ce n'est pas le temple qui sauvera le peuple. Même ceux qui viennent prier dans celui-là sera insuffisant. Mon troisième point, l'ancien temple est insuffisant. Il y a donc besoin d'un nouveau temple. Dieu, comme à son habitude, se présente souvent comme celui qui a fait sortir les Hébreux d'Égypte pour faire alliance avec eux, pour en faire son peuple, séparé des autres peuples. Dieu reste le même, il veut toujours se faire un peuple aujourd'hui, et il veut libérer tout homme, toute femme d'un autre esclavage, celui du péché, dont il était tellement question dans la prière de Salomon. Et là, clairement, l'ancienne alliance se révélera insuffisante. De prier dans le temple ou en direction du temple ne garantit pas l'exaucement. Il faudra une nouvelle alliance, un nouveau temple où nous serons sûrs d'être exaucés. Pas moins. Dieu avait dit à Salomon que s'il marche avec lui, David ne manquera jamais d'un successeur, verset 4. Dieu tiendra sa promesse, même si Israël ne la tiendra pas, malgré l'infidélité du peuple et de Salomon. On va le voir, Salomon aussi, il ne va pas rester fidèle. Et là, pour Dieu, clairement, c'est toujours l'alliance faite avec David qui est en vue. Le trône, il est toujours considéré comme le trône de David. Ce n'est pas le trône de Salomon, ce n'est pas comme ça qu'il est appelé, le trône de David. Et le roi est toujours considéré comme fils de David. Alors, cette descendance, mais vous vous en doutez. Jésus, fils de Dieu, né d'une vierge, appelé fils de David, parce que Marie et Joseph étaient de la descendance de David, sera l'accomplissement de cette promesse. Jésus, né de la Vierge Marie et du Saint-Esprit. Jésus sera l'accomplissement de sa promesse. de la descendance de David. Salomon a offert une multitude de sacrifices. C'était le premier sacrifice d'une série qui devait perdurer dans le temple tant que le temple subsisterait. Chaque jour, on venait offrir des sacrifices dans le temple. Depuis que Christ est venu, il est notre sacrifice suprême et éternel. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Lorsqu'il est mort sur la croix, volontairement, il a donné sa vie. Il est le sacrifice suffisant pour nos péchés. Du temps de Salomon, le temple où la gloire de Dieu habitait était là d'où il écoutait. Il exauçait, pardonnait et bénissait son peuple. Aujourd'hui, c'est au nom de Jésus que Dieu écoute, exauce, pardonne et bénit son peuple. Dans quel but? Bien sûr, pour notre bonheur, mais avant tout, c'est pas ça. Dans quel but? Pour que toute la gloire lui revienne. Pour se glorifier, et ne l'oublions pas, le but de Dieu reste le même. Aussi pour se faire connaître aux autres peuples. C'est pour ça que Dieu nous a pardonnés en Jésus. Dieu écoute les prières faites au nom de son Fils. Je lirai l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 13 et 14, ce que dit Jésus. Une promesse. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Dans quel but? Pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Jean 14, 13 et 14. Il est notre sacrifice. Et quiconque qui reconnaît son péché, qui veut s'en détourner et qui vient à Jésus, Dieu l'accepte. Dieu accueille quiconque vient à lui, se repent et croit en son Fils qui a porté la punition de nos péchés. Jésus a dit, évangile de Jean, chapitre 6, verset 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Qu'on soit juif ou non-juif, la porte est ouverte à tous ceux qui veulent. Notre besoin premier, on l'a vu, c'est d'être pardonné de nos péchés. Nous avons une promesse. Je vais passer quelques versets du Nouveau Testament. Nous avons cette promesse dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, que je lis. « Si nous confessons nos péchés, il, donc Jésus, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. En lui, nous avons le pardon de nos péchés. » Dans la prière de Salomon, il voulait que sa prière soit présente jour et nuit devant Dieu. Parce que nous avons besoin quotidiennement de l'assistance de Dieu, nuit et jour, en tout temps, selon la prière de Salomon, verset 59. Et bien, bonne nouvelle, c'est ce que redit le psaume 121, verset 4. Je vous lis, psaume 121, verset 4. « Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Dieu veille sur nous même pendant la nuit, en tout temps. » Pas en vacances. Salomon, il a prié pour son peuple. Et Salomon, on dit qu'il est un type de Christ. Il fait référence à Christ, il nous fait penser à Christ. Salomon a prié pour son peuple, et bien Christ prie aussi pour nous. Jésus est celui qui prie pour nous. Quand est-ce qu'il prie pour nous? De temps en temps, le dimanche? Non, il prie pour nous quotidiennement. Pour nous tous qui l'avons accepté. Pourquoi le fait-il? Parce qu'il est ressuscité. Je lis l'épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 25. Hébreux 7, 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, donc par Jésus, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ça ne sonne jamais occupé chez le Seigneur. On peut toujours s'approcher de lui. Alors, la prière de Salomon nous montrait l'importance que le peuple est un lieu où aller pour prier Dieu. Un lieu. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'être dans le temple de Jérusalem ou de regarder vers ce temple pour prier et être exaucés. Nous avons besoin d'un temple, un nouveau temple. Eh bien, Jésus, non seulement lui, il prie pour nous, mais il est notre temple. Colossiens, chapitre 2, verset 9, nous dit, car en lui, donc en Jésus, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et c'est à Jésus que nous devons regarder, parce que nous avons besoin de prier dans la présence de Dieu. Le temple de Salomon était un lieu pour rappeler au peuple qu'ils avaient besoin de prier là où Dieu était présent. Nous, nous avons besoin de prier dans la présence de Dieu et, eh bien, n'en doutons pas, Dieu est présent en son Fils. Et de même que Dieu a toujours les yeux sur son Fils, eh bien, il a toujours les yeux fixés sur tous ceux qui l'ont reçu comme leur Sauveur et Seigneur. Et qui constitue quoi ? Son Église. Jésus est notre temple. C'est vers lui que nous devons regarder pour prier. Il est le lieu où nous devons aller pour prier. Et il est là. Et aussi, la bonne nouvelle, c'est qu'il est venu demeurer au milieu de nous et en nous. Et nous, nous sommes le temple de Dieu. Jésus est notre temple et nous, l'Église, nous sommes le temple de Dieu. Je lirai 2 Corinthiens 6, verset 16. « Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Jésus est notre temple et nous sommes le temple de Dieu, là où Dieu est venu habiter. Pas moins. Alors, une question se pose. Puisque Dieu veut que les autres peuples le connaissent, aujourd'hui le monde doit voir par l'Église la gloire de Dieu. L'Église, elle est là pour manifester la gloire de Dieu. Est-ce que c'est le cas ? Je laisse à chacun le soin de répondre. La gloire de Dieu doit se voir dans quoi ? Dans la joie. Dans la joie de son peuple au milieu des autres nations. Pourquoi cette joie ? Parce que Dieu répond aux prières. Parce qu'il répond, il exauce nos prières, parce qu'il nous pardonne. Et ça, c'est une cause suffisante pour nous donner la joie. Rappelez-vous, le peuple, il est reparti chez eux dans la joie. Et si ceux de l'extérieur voient notre joie en tant que peuple de Dieu, mais ça devrait leur donner envie, pas seulement de venir, mais de courir à lui. Un auteur qui est assez connu, qui s'appelle John Piper, il a dit ceci. En ce qui concerne l'évangélisation, il a dit ceci. La mission, c'est une opération de sauvetage pour glorifier Dieu dans la joie de tous les peuples. Je le relis, parce que c'est très profond. Je crois qu'il a mis beaucoup de temps à trouver cette phrase, parce qu'il l'explique tellement bien. La mission est une opération de sauvetage pour glorifier Dieu dans la joie de tous les peuples. On annonce une bonne nouvelle au peuple, aux autres. La gloire de Dieu doit se voir dans la joie de son peuple, dans notre joie parmi les nations, parce qu'il répond à nos prières. Il est question de joie dans ce passage, il est question de plaisir. Le texte nous dit, verset 1, que tout ce qu'il a plu à Salomon de faire, Salomon a fait ce qu'il avait sur son cœur. Salomon a pris plaisir à accomplir son œuvre de construction du temple et de sa maison. Qu'est-ce que c'est qui va nous donner de la joie ? C'est de faire ce que nous aimons, ce que Dieu met sur notre cœur. Si c'est pour lui, bien sûr, lorsque nous faisons pour lui. Et ça aussi, quand nous faisons ce que nous aimons pour le Seigneur, ça sera un témoignage pour les autres peuples. Amen. Je vais prier, et dans ma prière, je vais reprendre la prière de Salomon. Je vais y mettre quelques variantes. Parce que ça concerne non seulement Israël, et ça concerne tout son peuple, l'Église. Je vais prier. Je vais reprendre les versets 57 à 60. T1. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pères, et qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies, et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrites à nos pères. Que ses paroles, objet de mes supplications devant l'Éternel, soient jour et nuit présentes à l'Éternel, notre Dieu, et qu'il fasse en tout temps droit à son peuple, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Seigneur, fais que notre cœur soit tout entier à toi, pour te suivre, pour faire ta volonté. Dispose nos cœurs, incline nos cœurs, Seigneur, à faire ta volonté. Toi seul, tu peux le faire. Et que, Seigneur, on vive ta joie, Seigneur. Que les autres le voient et aie envie, Seigneur, de venir à toi. À cause de ce que tu as fait, tu es un Dieu de grâce. Tu as fait alliance avec ton peuple pour leur pardonner leurs péchés, pour te faire connaître aux autres peuples, Seigneur. Que ça soit notre moteur, que tu sois notre moteur, Seigneur, que tu sois notre joie, et qu'elle transparaisse, Seigneur, aux yeux des autres, pour qu'eux aussi viennent à toi. Merci, Père, encore, au nom de Jésus. Amen. Amen.